Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Dans ce numéro, nous parlons des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale au Maroc. L'événement s'ouvre ce lundi à Marrakech, une première en terre africaine depuis 50 ans. Quels sont les enjeux africains de ces assemblées annuelles des principales institutions financières internationales? Vous aurez la réponse dans le Zoom Express. L'agenda 2063 de l'Union africaine célèbre sa première décennie. Quelles sont les réalisations et avancées à noter depuis son lancement en 2013? Nous ferons ce bilan d'étape avec notre invité. Il s'agit de Mohamed Chkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique. Et puis, nous irons au Niger pour notre destination éco de la semaine. Niamey accueille la 7e édition du salon Made in Niger. Nous serons sur place en fin d'émission avec notre correspondant Jean Djibril William. Quel est le programme de coémergence de cette semaine? Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Je vous le disais à l'instant, les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale se tiennent au Maroc. L'événement s'ouvre ce lundi à Marrakech, une première en terre africaine depuis 50 ans. Cet événement de grande envergure réunira au total 14 000 participants des quatre coins du monde. Parmi eux, 4 500 représentants des 189 délégations officielles conduite par les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales. Sur place, il sera question de débattre des enjeux économiques mondiaux, des défis du développement et des politiques de financement dans un contexte de ralentissement exacerbé par une montée des tensions géopolitiques. Et pour les pays africains, quels en sont les enjeux? Écoutons l'analyse de Idriss Lindje. Il est le rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin.
Alors, de mon humble point de vue, les enjeux sont de plusieurs ordres hein, déjà. Il faut savoir que les rencontres annuelles Banque mondiale FMI étaient une des étapes inscrites dans l'agenda de la conférence de Paris pour le changement du système financier international pour apporter des réponses concrètes aux demandes des Africains qui veulent voir reformer le FMI qui reste sur des vieux modèles historiques de quotas et la Banque mondiale qui devrait jouer un rôle de catalyseur et collaborer davantage avec les banques de développement à caractère régional. Donc ces questions seront discutées forcément dans le cadre de ces assemblées annuelles.
Ce conclave est donc l'occasion pour la communauté internationale de discuter de ces défis qui concernent l'Afrique, comme l'inclusion des jeunes, la dette à laquelle sont confrontés de nombreux pays du continent ou encore le changement climatique, nous dit Idriss Lindje de l'agence panafricaine Ecofin.
La deuxième chose, c'est la question de la finance climat. On est loin des objectifs, or c'est une pression en termes de développement. Les gens s'attendent à ce qu'il y ait plus d'engagement multilatéral à la faveur de la finance climat, surtout à destination des pays africains, parce qu'à la différence des autres pays, des autres régions du monde, l'Afrique continue d'être celle qui pollue le moins, mais aussi elle dispose d'une vaste forêt tropicale qui capte du carbone, capte et préserve le carbone. Et ce mécanisme est aujourd'hui menacé parce que les populations sont de plus en plus pauvres. Et bien sûr, il y a toujours la lutte contre les inégalités, non pas dans le continent, mais au niveau du monde. Il faut qu'on le dise, hein, 60 ans après, les politiques de développement des institutions de Bretton Woods n'ont rien donné. Il faudrait qu'on revoie tout ça, qu'il y a cette allocation des DTS. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux financiers, politiques, et il faut s'attendre à ce que la société civile vienne faire pression pour que la Banque mondiale et le FMI cessent de soutenir les objectifs de réforme fiscale de l'OCDE qui ne favorise que des pays très très riches. Donc voilà, beaucoup d'enjeux et je pense que ça promet d'être un cadre vibrant des échanges entre divers acteurs.
Selon le FMI, l'Afrique sera l'un des principaux focus de ces assemblées. Il sera en outre question de la connectivité physique entre les pays du continent, l'élimination des barrières commerciales et non commerciales, notamment dans le contexte de mise en œuvre de la zone africaine de libre-échange continentale, la ZELECAF.
Coémergence. L'invité.
Il s'agit de Mohamed Ishkoundi, il est spécialiste de la gouvernance en Afrique et avec lui, nous parlons de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui célèbre sa première décennie. Nous allons revenir avec notre invité sur les réalisations et avancées à noter depuis donc son lancement en 2013. Bonjour et bienvenue à vous Mohamed Ishkoundi dans Coémergence. Tout d'abord, quelles sont les principales réalisations de l'agenda 2063.
Donc sur le plan politique, je reviens à l'idée de, on va dire, l'aspiration 2. Nous avons l'aspiration 2 et nous avons l'aspiration 3. Donc l'aspiration 2, c'est une Afrique, d'abord une Afrique intégrée, une Afrique unie. Donc on peut dire que pendant les dix dernières, c'est-à-dire les cinq dernières années, l'Afrique a réalisé des avancées significatives au niveau de l'implémentation, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. C'est-à-dire, la zone de libre-échange continentale est entrée en vigueur en mars 2021. Donc, ça, c'est une avancée significative sur le chemin de renforcement de l'intégration continentale. Si on revient aussi, donc, par rapport à ça, il y a des avancées importantes. Donc, maintenant, faut-il que les acteurs économiques, qu'il s'agisse des grandes ou des petites entreprises, en tirent profit? Parce que, certes, la volonté est là. La majeure partie des pays africains, ils ont signé, ratifié l'accord de libre-échange continental. Ça, c'est une bonne chose. Elle est entrée en vigueur, mais il y a aussi des obstacles. Donc, grosso modo, au niveau politique, ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y a eu une volonté importante émanant de la plupart des pays africains pour aller de l'avant en matière de mise en place de la zone de libre-échange continentale. Donc, on a eu l'impression qu'il y a eu une accélération de la cadence pour une Afrique unie, ne serait-ce que d'un point de vue économique, pour renforcer aussi les échanges intra-communautaires. Mais il n'y a pas que les échanges intra-africains, il y a aussi les échanges commerciaux de marchandises, de biens et services, et il y a aussi les échanges de tout ce qui est investissement. Parce que derrière la zone de libre-échange continentale, il y a cette idée aussi de faire émerger des chaînes de valeur. Et ça, c'est important, comme on le dit souvent, parce qu'il y a des chaînes de valeur asiatiques, européennes, américaines, mais on n'a pas, hélas, de chaînes de valeur africaines. Donc, il est temps aussi de penser à faire émerger des chaînes de valeur africaines dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des énergies renouvelables et dans bien d'autres domaines, dans le domaine aussi de l'économie.
Je pense que c'est très intéressant comme bilan d'étape. Je pense là même vous avez non seulement touché l'aspect politique mais aussi économique parce que justement il y a cette zone de libre-échange continentale mais aussi la concrétisation de pas mal de stratégies au plan continental. Je pense notamment sur le plan aérien, le fameux MUTA, le marché africain sur le transport aérien, et dans d'autres domaines. Je pense au passeport africain notamment. Donc, disons que plusieurs initiatives ont été lancées durant ces 10 dernières années. Mais qu'en est-il de la concrétisation sur le terrain?
Donc, si je reviens sur la zone de libre-échange continentale, des obstacles demeurent. Ces obstacles, c'est au niveau de tout ce qui est règles d'origine. Et donc là, en la matière, il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir pour pouvoir, pour que le libre-échange entre pays africains puisse se faire, rajoutant à cela aussi des obstacles liés à tout ce qui est, on va dire, barrières douanières. Donc là, il y a des réticences. C'est vrai que les pays ont signé et ratifié, mais il continue à y avoir des réticences. Et on a l'impression que l'information ne circule pas beaucoup entre pays africains. Et ça, c'est un aspect structurel au niveau de la gouvernance de l'agenda 2063. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion entre les échelons. C'est-à-dire l'initiative est continentale, sa réalisation incombe au local, au national plutôt, mais aussi sa concrétisation incombe à l'espace régional, c'est-à-dire aux communautés économiques régionales. Il n'y a pas un continuum, il n'y a pas de connexion, donc peut-être c'est à cause de ça. Après, au niveau de transport aérien, certains pays, il y a eu des avancées significatives, mais ce n'est pas tous les pays africains qui ont signé et ratifié. Et donc, c'est-à-dire pour que le marché commun de transport aérien africain puisse voir le jour, il faut que tous les pays, peut-être la majeure partie des pays africains, signent et ratifient. Donc peut-être là où le bât blesse au niveau de la concrétisation, c'est au niveau aussi de la signature, la ratification, et c'est au niveau aussi de financement, parce que ce sont des projets phares, comme c'est stipulé dans l'agenda de 1963, qui des projets phares, des infrastructures nécessaires pour les mettre en valeur. Donc il faut des réseaux d'infrastructures, c'est-à-dire collectifs, des réseaux collectifs d'infrastructures, et tout ça c'est coûteux en termes d'argent. Donc d'où l'importance de mobiliser des financements. Surtout quand on sait que le budget de l'Union africaine, il ne dépasse guère les 620 millions d'euros. Donc c'est vraiment assez maigre, et d'autant plus que ce budget est éparpillé parce que parfois il est alloué à plusieurs secteurs, parce qu'on essaye de concrétiser les 7 aspirations à la fois. C'est vrai qu'avec la réforme de la commission Kagame, on a essayé de dire que dorénavant, il faut travailler sur la base par priorité, mais quand même, il y a beaucoup de secteurs qui s'imposent, donc il faut les financer. Et pourquoi il y a parfois certains qui exerce un effet d'éviction sur d'autres secteurs.
Justement, avez évoqué cet aspect relatif au financement. On se rappelle bien évidemment de cette réforme avec l'introduction de cette taxe sur les importations quelques années après. Qu'en est-il, elle aussi, de sa mise en œuvre, ou plutôt de l'autonomie financière de l'Union africaine?
Il faut dire que depuis la réforme de la commission Kagame, en termes d'autonomie financière de l'Union africaine, il y a eu beaucoup d'avancées significatives. D'abord par rapport à la contribution des États membres, ça c'est important, par rapport aussi à la collecte de ce qu'on appelle la taxe québécoise, ça c'est important, parce que beaucoup de pays se sont engagés, il y en a qui ne se sont pas encore engagés, mais ça viendra. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire globalement? Donc déjà, au niveau du budget de fonctionnement de l'Union africaine, elle est financée à 100% par le concours, par la contribution des États. Ça, c'est fondamental. Après, de l'autre côté, au niveau maintenant du budget d'équipement, c'est-à-dire ce qui nous intéresse le plus, c'est comment on va faire pour atteindre les aspirations et pour réaliser, concrétiser les objectifs qui nous permettent d'atteindre ces aspirations. Et donc, et l'idée derrière, c'est de permettre à l'Afrique d'avoir une voix au chapitre au niveau international. Et donc, d'où l'importance d'assurer un autofinancement, c'est-à-dire de financer ces projets phares par nos propres moyens. Donc, en la matière, on peut dire qu'il y a eu des avancées à partir du moment où maintenant 40% de ces programmes sont financés par le propre budget de l'Union africaine, grâce à la taxe dont nous venons de parler, et grâce au concours des États, les 60%, hélas, l'Afrique, l'Union africaine continue à compter, bien évidemment, sur l'aide internationale pour pouvoir concrétiser sa vision liée à l'agenda 2063.
En tout cas, c'est des précisions importantes et j'espère que dans les années à venir, ce financement pourra être parfaitement et disons intégralement pris en charge par les États africains. Alors, l'Union africaine, par rapport à ces troubles politiques que l'on voit à travers le continent, surtout en Afrique de l'Ouest, avec la multiplication des coups d'État, alors justement, quel rôle pour l'Union africaine dans tout ça, 10 ans après le début de l'agenda 2063, et on se rappelle que l'objectif est de faire taire les armes en Afrique.
Oui, surtout quand je reviens, je suis en train de lire l'aspiration 4 de l'agenda 2063 de l'Union africaine, une Afrique vivant dans la paix et la sécurité. Donc ça, c'est primordial, parce qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Et ça, la plupart des pays africains l'ont compris. Mais hélas, notre continent continue à être secoué par des conflits, par des problèmes d'insécurité, par le terrorisme qui sévit dans beaucoup de parties en Afrique. Donc on peut dire, par rapport à l'objectif faire les armes, certes, il y a une volonté qui est là, liée par la réforme de Conseil de paix et sécurité, parce que c'est le bras droit de l'Union africaine pour pouvoir faire les armes, pour pouvoir mettre en place une approche d'abord anticipative ou préventive, afin d'empêcher l'éclatement de certains. Mais quand même, par rapport à cette aspiration, je crois que le chemin reste long.
Merci à vous, Mohamed Chkoundi. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la gouvernance en Afrique. Vous nous faisiez le bilan d'étape de la première décennie de l'agenda 2063 de l'Union africaine.
Destination Écho.
Direction le Niger avec la 7e édition du Salon professionnel 100% Made in Niger. Une occasion de mettre en avant les divers produits locaux, une vitrine en faveur du consommé local, dans un contexte de sanctions régionales qui touchent notamment l'approvisionnement en produits alimentaires. Le compte rendu avec notre correspondant à Niamey de Jean-Djibril William.
Les sanctions infligées par la CEDEAO au lendemain du coup d'État du 26 juillet n'ont pas manqué de s'inviter au lancement du salon 100% Made in Niger, une apologie du consommé local qui sonne dès lors comme un acte patriotique dans un contexte marqué par un arrêt de l'approvisionnement en produits alimentaires habituellement importés.
Après 7 ans, aujourd'hui, on ne va plus rester pour faire des discours. Pour nous, c'est notre façon d'apporter notre pierre à ce combat qui est devenu un combat national. Le combat du changement de mentalité. Le combat du consommé nigérien ou consommé patriotique.
Un marché à pourvoir pour les centaines d'artisans et de transformatrices alimentaires venus des 8 régions du Niger. Durant 5 jours, le salon Made in Niger est aussi l'occasion pour les visiteurs de découvrir la production locale comme une réponse à l'embargo alimentaire que subit le pays.
On sait qu'avec l'embargo, il y a beaucoup de produits qui ne viennent pas ici au Niger. Mais on a beaucoup de produits que les Nigériens peuvent consommer. On a les couscous à base de tous les céréales, on a les bouillies, on a les farines pour faire les bouillies, on a des granulés, des déguets, qui est fait dans des meilleures qualités, dans des meilleures conditions et qui répond aux normes. Donc vraiment, j'appelle et de venir visiter au niveau de nos stands, de voir ce que les femmes sont en train de faire et de venir. On va travailler ensemble pour faire développer le pays en même temps ensemble.
Et comme chaque année, le salon est aussi l'occasion de mettre en avant une localité du Niger de par ses produits locaux. Pour cette 7e édition, c'est la région du Kawar, à plus de 1500 km de la capitale nigérienne, que les visiteurs sont invités à découvrir.
Ça nous a permis vraiment d'être visibles, de faire connaître nos principaux produits, surtout le sel, pour l'alimentation humaine, mais aussi pour l'alimentation du bétail, les dattes, parce que nous avons à peu près 300 000 pieds de dattiers. Nous avons de l'eau souterraine et nous avons vraiment vendu les images et l'image du Kawar.
Couplé à la 4e édition du mois d'octobre, mois du consommé local, le salon Made in Niger prévoit, comme chaque année, une série de panels et de formations axées sur la transformation alimentaire et la promotion des produits locaux. Des accords de coopération sont d'ores et déjà prévus avec la Turquie, invité d'honneur de cette 7e édition.
Merci à vous, Jean-Djibril William, correspondant de Midi 1 à Niamey. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Midi 1 Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituels. Bonne suite de programme sur Medium.